Tant que la victime est en contact avec l'agresseur, elle reste dissociée et soumise. Et comme nous l'avons vu, elle semble tolérer l'intolérable et ne pas en être traumatisée. Elle peut mettre en place des stratégies d'évitement pour éviter les violences et de contrôle, pour éviter tout ce qui peut énerver ou frustrer l'agresseur. Ses conduites d'évitement, d'autocensure sur l'habillement, les sorties ou les fréquentations, et ses conduites de contrôle sur la vie familiale ou les dépenses, par exemple, sont le plus souvent directement imposées par l'agresseur sous la forme d'un contrôle coercitif. Quand la victime n'est plus directement exposée à l'agresseur et au contexte des violences, ou quand elle est enfin protégée, elle sort de son état dissociatif. Elle sort de son état de choc traumatique et récupère ses émotions. Elle va donc mieux. Mais paradoxalement, elle part aller beaucoup plus mal, car les activations de sa mémoire traumatique ne sont plus anesthésiées. C'est à ce moment-là qu'elle semble décompensée lors de liens réactivant sa mémoire traumatique avec de grandes angoisses et des attaques de panique. Elle vit en permanence dans la peur et dans les plus graves souffrances. Si sa mémoire traumatique n'est pas identifiée et soignée, c'est un enfer. Si la victime réussit à fuir le domicile familial ou conjugal violent et qu'elle n'est ni prise en charge ni informée de cette levée d'anesthésie, elle peut penser qu'elle va plus mal depuis qu'elle a quitté son agresseur, qu'elle est incapable de vivre sans lui, qu'elle devient folle, comme souvent il le lui a dit. Elle peut retourner vivre avec lui, ce qui la dissociera de nouveau. Anesthésiée émotionnellement, elle ne ressentira plus les activations de sa mémoire traumatique. Et pour l'entourage et les proches qui méconnaissent les mécanismes psychotraumatiques, ce comportement de la victime qui retourne parfois plusieurs fois vers l'agresseur est très mal vécu et est reproché à la victime. Si la victime reste à distance de l'agresseur et du contexte des agressions face aux activations de sa mémoire traumatique, elle est condamnée à mettre en place des stratégies de survie très handicapantes et épuisantes et qui lui seront également souvent reprochées. Ces stratégies de survie sont de deux sortes. D'un côté, des conduites d'évitement et de contrôle, accompagnées d'une hypervigilance constante pour éviter les allumages de la mémoire traumatique. Et de l'autre, des conduites à risque dissociantes qui seront anesthésiantes et permettront de ne plus ressentir les émotions liées aux événements traumatiques.